Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire que c'est une très grande joie pour moi que d'être présent ici ce soir au titre de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et plus particulièrement de son Collège d'études mondiales où Françoise Vergès est responsable d'une chaire. C'est un plaisir d'être ici et pas n'importe où puisque nous sommes accueillis par la Fondation Gulbenkian, son directeur, Jean Carassa, avec qui, depuis longtemps, nous faisons les choses ensemble. Nous faisons progresser la connaissance. Et comme dit quelqu'un que j'aime bien citer, Pierre Asner, nous élevons le niveau de perplexité des uns et des autres. Et donc, c'est toujours très bien. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, puisque c'est Françoise qui est la maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Donc, chère Françoise, à toi de nous présenter cette soirée, de nous dire peut-être quelques mots de ce qu'elle vient conclure ou ponctuer, et puis ensuite de nous dire comment nous allons travailler ce soir ensemble.
Bonsoir, Françoise Vergès, la chaire Global Science au Collège d'études mondiales. Tout d'abord, merci à la Fondation Gulbenkian de nous accueillir. Après 2 jours extrêmement intenses de travail, que nous avons mené la première journée au Collège d'études mondiales avec tous les chercheurs, 28 chercheurs, autour de ce sujet de race after the post-racial. C'est-à-dire comment, à un moment donné, alors qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de race ou qu'il n'y a plus de... finalement, il y a une prolifération de racisme. C'est-à-dire je ne suis pas raciste, mais... qu'on entend partout, ou que finalement je n'ai pas voulu dire ça, mais finalement je l'ai dit, alors je suis désolée de vous avoir blessé, ce n'était pas ma intention, et pendant cela, donc toutes ces choses sont dites. Aussi, à ajouter, par exemple, à la question de la sécurité qui grandit, le fait de désignation d'ennemis intérieurs, la situation des migrants et des réfugiés. Enfin, si on se situe en Europe, mais nous avons eu aussi des personnes qui nous ont parlé de la Palestine, d'Israël, des États-Unis, de l'Angleterre, et de l'Italie et d'autres situations. C'est-à-dire que nous avons essayé de réfléchir à qu'est-ce qui se passe et comment on peut le comprendre et quelles peuvent être les stratégies qu'on peut développer, des stratégies à la fois à l'université, dans la recherche, dans l'éducation, mais aussi évidemment dans l'activisme, enfin je veux dire dans la situation de la société civile. Donc on s'est attelé à ces questions et il est vrai que l'an dernier, avec David Teugelberg, on avait organisé un workshop qui était le retour de la religion dans l'espace public. Et après, on s'est demandé quel sujet pour l'année prochaine. Et on s'est dit, à l'époque, David avait sorti ce livre, Race After the Post-Racial, et il nous a semblé une question tout à fait intéressante. On ne pouvait pas prévoir que non seulement elle continuerait à être intéressante, mais elle deviendrait si pressante aujourd'hui, avec évidemment les politiques que l'on voit se développer, non seulement en Europe et non seulement aux États-Unis, mais on peut parler aussi de l'Asie, de ce qui se passe en Asie et de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe globalement et comment on peut le comprendre à la fois dans leur spécificité, dans leur forme spécifique et singulière qu'elles prennent dans chacun des pays ou chacun des continents, mais à la fois aussi qu'est-ce qui se passe globalement, comment on peut comprendre. Donc, comment penser cette prolifération de racisme, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans l'élection de ces gouvernements partout, de ce qu'on appelle le populisme, de la parole, de ce qu'on appelle aujourd'hui en français la parole décomplexée. Nous parlons sans tabou, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire qui part partout, qui se dissémine, qu'on puisse commencer à reparler du droit du sang, par exemple, qu'il y a des propositions, même dans la République française, sur le fait de revenir au droit du sang plutôt qu'au droit du sol. C'est-à-dire que c'est non pas que vous naissez en France qui vous fait français, mais qui serait je ne sais pas très bien d'ailleurs quel est le droit du sang dans cette situation. Mais enfin, donc tout ça, on y a pensé. Donc ça a été 2 journées extrêmement riches, extrêmement intenses. Hier, donc nous avons discuté entre nous. Et le soir, nous avons rencontré des jeunes activistes qui sont engagés dans les combats antiracistes et pour voir un peu quelles sont leurs paroles, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs manières de voir les choses, comment elles formulent, comment ces associations ou ces personnes formulent la question de l'antiracisme. Et aujourd'hui, c'était ouvert au public et nous avons continué donc cette discussion Nous avions vraiment, 20, je crois, entre 28 et 30 chercheurs absolument extraordinaires, avec des expertises très différentes, des philosophes, des sociologues, des spécialistes de la poésie, de la littérature, vraiment pas du tout donc la chose habituelle. Et ça a été vraiment aussi, nous avons réussi en fait à casser le côté trop universitaire et nous avons réussi à entrer vraiment dans une conversation, c'est-à-dire à parler les uns avec les autres et à apporter chacun ce qu'on pouvait savoir, mais aussi à rebondir sur ce que la personne présentante avait dit. Donc ça, ça a été très important. Et nous voulions finir, donc en fait, nous avions pensé faire cette table ronde, mais il est vrai qu'à partir du moment où on a fait connaître ce programme, on a eu beaucoup de demandes, et on a voulu donc ouvrir toute la journée au public et ce soir. Donc ce soir, c'est toujours cette même question de racisme et de post-racial. Et nous avons invité à cette table ronde, nous allons avoir Michel Vivorca qui a ouvert très gentiment la soirée, qui est un sociologue, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Vous le connaissez, mais enfin, je vais quand même, qui est connu pour son travail sur la violence, le terrorisme, le racisme, les mouvements sociaux, la théorie du changement social. C'est un des sociologistes les plus connus et du monde intellectuel français. Ne rougis pas, ne rougis pas. Et donc, beaucoup de ses livres sont traduits dans plusieurs langues. Il a reçu, je dirais, il est connu internationalement. Il a été interviewé par tous les médias internationaux à la suite des révoltes de 2005 en France. Et à Durban, en 2006, il avait été élu comme président de l'Association internationale de la sociologie. Il a donc parlé de l'intervention sociologique avec Alain Touraine et François Dubé, et il l'a employé dans l'étude des mouvements sociaux militants, particulièrement en France, l'activisme antinucléaire et les mouvements étudiants, mais aussi, évidemment, Solidarność en Pologne. Aujourd'hui, il est le directeur aussi d'une série, d'une édition « Le monde comme il va », aux éditions Robert Laffont, et aussi de la série Intervention, la collection Intervention, pardon, aux éditions de la MSH. Donc, il va être le premier personne à intervenir. Ensuite, nous avons demandé à Nadira Shaoub-Kelvorkian d'intervenir, qui est professeure visiteur à l'Université de Californie Irvine, au Centre des de recherche sur les humanités. Et elle travaille beaucoup sur le droit, la société, les crimes. Elle a étudié le crime du fémicide, qu'on ne connaît pas trop bien en France, mais et toute autre forme de violence de genre et les abus de pouvoir dans le contexte des colonies, notamment en Israël. La question de la sécurisation. Son livre, elle a eu un livre en 2010, La militarisation et la violence contre les femmes dans les zones de contact dans le Moyen-Orient, le cas palestinien, et plus récemment un livre sur ce qu'elle appelle la security theology, donc elle parlera la surveillance et les politiques de la peur. Ensuite, nous avons demandé pour cette table ronde, hein, puisque aussi tout le monde qui a été dans ces deux jours est invité à participer. Mais enfin, Hassan Hage, qui est professeur d'anthropologie et de théorie sociale à l'Université de Melbourne, qui a d'ailleurs a été professeur plusieurs fois en France à l'École des hautes études, et dont les livres, notamment en 2001, White Nation, avaient eu un énorme écho en Australie. Et son livre qui va sortir l'an prochain, c'est « Est-ce que le racisme est une menace environnementale ?» Et ensuite, nous aurons un message qui a été filmé d'Angela Davis, qu'Angela Davis nous a envoyé pour cette conférence en réponse à la question que nous avons soulevée. Et David Goldberg and High, et moi, nous dirons deux mots un petit peu sur ce qu'a été notre objectif pendant ces deux jours, et enfin ce qui en sort, vers quoi on voudrait aller. Et puis nous aurons un débat avec la salle. Donc je passe la parole à Michel Vivorca.
Après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait penser que l'antisémitisme allait disparaître. On sait très bien aujourd'hui qu'il n'en est rien. Dans le contexte de la décolonisation, on pouvait penser que le racisme lié à la colonisation d'une façon ou d'une autre allait disparaître. Nous voyons bien qu'il n'en est malheureusement rien non plus. Et donc, je voudrais dire quelques mots sur comment, me semble-t-il, le racisme s'est reconstruit, ou se reconstruit, ou se transforme, depuis essentiellement la fin des années 70. C'est-à-dire cette période qui vient, si je peux dire, après la digestion de l'expérience nazie et de l'expérience ou des expériences de décolonisation. Alors, la première étape qui m'a frappé, et j'utilise un mot que j'ai trouvé à l'époque, il y a déjà une trentaine d'années, dans la littérature spécialisée, c'est que le bon vieux racisme ne disparaissait pas, le racisme physique, biologique, mais, c'est le mot qui était utilisé en anglais ou en américain, il devenait « subtil ». Et je me souviens de longues discussions avec une traductrice pour savoir comment traduire « subtil » en français. Alors, subtil, discret, on cherchait des mots comme ça. Alors, c'est la première chose. Et pour élargir un peu cette remarque, le racisme devenait, et là, il y a tout un vocabulaire, d'ailleurs, qui a accompagné ces phénomènes, indirect, systémique. Alors, indirect, ça veut dire que les gens agissent de façon très nettement raciste, mais en utilisant des procédés qui donnent l'impression que c'est d'autre chose qu'il s'agit. Je vous en donne un exemple qui vient à l'esprit. Si, c'est pas du racisme, mais enfin, c'est, puisque le thème des femmes, du gender a été évoqué, c'est à propos des femmes. Si je veux éviter dans une profession qu'il y ait des femmes, ben je dirais que la profession est réservée aux personnes qui mesurent au moins 1m90. Alors, je dis pas qu'il n'y a aucune femme qui ne fasse pas 1m90, mais statistiquement, il y a quand même plus d'hommes que de femmes qui font 1m90. Et puis surtout, le racisme est devenu, alors là, il y a tout un vocabulaire institutionnel ou systémique, c'est-à-dire personne n'est raciste, mais le résultat, c'est de la discrimination, c'est de la ségrégation. Exemple que je simplifie à l'extrême, une entreprise dans une ville sinistrée économiquement et où 30 ou 40% de la population, ce sont des gens issus de l'immigration, comme on dit en France, eh bien, cette entreprise, 600 emplois, n'embauchait aucune personne issue de l'immigration. Alors, il y a des syndicats qui en ont eu conscience, qui ont fait une enquête, et voilà ce qui se passait. Dès qu'un emploi se libérait dans cette entreprise, où les salaires étaient bons, les conditions de travail excellentes, il y avait toujours quelqu'un pour dire « mon frère, mon neveu, j'ai un copain, etc. » pour proposer le job. Et comme au départ, c'était que des Gaulois, si vous voulez, à l'arrivée aussi. Et donc, personne n'était raciste. Ou en tout cas, c'est le jour où on a compris ce qui se passait, qu'il a bien fallu voir si on voulait modifier cet état de fait ou pas, et là où le racisme pouvait apparaître. C'est le racisme indirect, institutionnel. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais voyez, tout ce côté, le phénomène n'apparaît pas blatant, comme ça, direct, brutal. Il est contourné, mais il existe. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième grande évolution, c'est l'évolution qui commence à être comprise aux États-Unis à la fin des années 70, d'abord par des psychologues et des gens de sciences politiques, puis le même type d'analyse va arriver au Royaume-Uni à peine plus tard, puis descendre, si je puis dire, du nord de l'Europe vers le sud, Belgique, France, et puis toute l'Europe va être consciente de cette nouveauté qui a fait l'objet de toutes sortes de qualificatifs. On s'est mis à parler de « new racism », de « néo-racisme », de « racisme différentialiste », de « racisme culturel ». C'est toujours un peu la même idée. C'est qu'au lieu de dire telle personne appartient à une race que je définis de façon physique, biologique, et elle est nécessairement inférieure, on va dire telle personne appartient à un groupe culturellement différent. Et ce groupe est tellement différent que jamais il ne pourra trouver sa place dans ma nation, dans ma société, dans mon univers. Alors aux États-Unis, on a reproché aux Noirs de ne pas croire à l'American Creed, de ne pas vouloir travailler, de ne pas vouloir avoir des familles, mais ce genre de choses. On ne dit pas qu'ils sont différents physiquement, hein. On dit juste culturellement, ils ne veulent pas jouer le jeu. Ils ne veulent pas trouver leur place dans la nation, dans la société. Et donc c'est un racisme qui insiste non pas sur l'idée d'une hiérarchie physique, enfin visible pour des raisons physiques, mais sur l'idée d'une différence culturelle. Alors on pourrait discuter de tout ça, parce qu'évidemment, c'est très fallacieux. Derrière la culture, en réalité, il y a vite la nature, il faut juste gratter un petit peu. Mais c'est quand même une transformation. Et si vous écoutez aujourd'hui les discours racistes dans bien des pays, ils sont effectivement, apparemment, dominés par ce genre d'orientation. Donc ça, c'était mon premier point. Ne t'inquiète pas, Françoise, il n'y en aura pas trop. Le deuxième point, c'est que je voudrais insister sur trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on est dans des sociétés, je parle de façon très ethnocentrique, de ce monde, disons, du Nord. On perd un peu les points cardinaux, on ne sait plus où on en est. Du Nord et de l'Ouest, si vous voulez. Mais enfin, il peut y avoir du Nord et de l'Ouest, au Sud et à l'Est. Mais disons des pays comme celui-ci, ou États-Unis, ou Europe, disons. Premier phénomène, d'énormes transformations qui donnent l'image de la fragmentation et de l'accroissement des inégalités. Et dans ce paysage, ce qui se passe, c'est qu'il se constitue de façon de plus en plus visible, de façon de plus en plus exacerbée, il se constitue des fragments, des morceaux de société qui sont tentés par la non-communication avec d'autres fragments de société. Et ce qui se passe du point de vue du racisme, c'est que, alors que dans le passé, il était avant tout, je ne dis pas exclusivement, mais avant tout le fait d'un groupe dominant par rapport à des groupes dominés, on a une toute autre image qui se met en place. Chaque groupe, qu'il soit le groupe dominant ou un groupe dominé, dans chaque groupe, on est susceptible d'être victime ou d'être coupable, ou les deux d'ailleurs, de racisme. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'où ces thématiques du racisme anti-blanc, qui sont assez surréalistes, je trouve, mais qui existent. Mais aussi cette image qu'il faut absolument accepter que tout groupe minoritaire peut être victime du racisme et peut comporter en son sein des racistes, des gens qui ont des orientations racistes. On le voit très souvent, par exemple, en France, pour les gens qui étudient les phénomènes de ce qui se passe dans les banlieues, les quartiers populaires français, où on voit très, très vite qu'il peut y avoir des affaires entre, je ne sais pas moi, des Chinois et des Nord-Africains, entre des Coréens et des... etc. Toutes sortes de groupes comme ça. Donc le premier point, c'est que l'évolution générale de bien des sociétés, fragmentation plus inégalité croissante, ça fabrique ces processus de transformation du racisme. Et évidemment, dans un univers où les logiques en France, on appelle souverainistes, de repli de la fermeture de la société sur elle-même, d'appel à l'homogénéité de la nation, de refus d'un monde ouvert, d'une société ouverte, ces phénomènes, évidemment, ne peuvent qu'exacerber ce dont je vous parle. La deuxième évolution qui me frappe, c'est ici et là, il faut le dire avec précaution, ce n'est pas des phénomènes forcément massifs, des logiques qu'on pourrait appeler d'auto-racialisation. Je vais le dire de façon imagée, là aussi. Il y a quelques années, en 2005, est apparu un mouvement noir, le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France. Et ce mouvement, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'ai écrit un article pour dire que c'était formidable. Du coup, ils m'ont contacté. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui est encore en titre, mais en réalité, ça n'a plus aucun sens, le président du Conseil scientifique du CRAN. J'étais très honoré. Et j'ai souvent discuté avec le fondateur, qui s'appelle Patrick Lozès. Et Lozès n'arrêtait pas de dire... Arrêtez de dire que je suis black. Dites que je suis noir. Et puis après, on parlera des discriminations. Autrement dit, et moi, je vous dis, je suis noir. C'est ce que j'appelle des logiques d'auto-racialisation, c'est-à-dire, je me définis moi-même par une catégorie physique pour qu'on arrête de me définir, évidemment, par cette catégorie physique. Et donc, ce sont des logiques importantes parce que ça perturbe complètement, ça modifie complètement les questions de l'action antiraciste. J'en donne un autre exemple, si vous voulez, que j'emprunte au monde juif. Jusque dans les années 70, en France, le monde juif n'était pas visible en tant que tel dans l'espace public. Donc lorsque des juifs étaient victimes d'antisémitisme, de façon importante, ça ne pouvait pas susciter dans l'espace public une mobilisation des juifs en tant que tel. Et tout a basculé dans le même contexte, en 80 ou 81, quand il y a eu un attentat très important rue de Copernic devant une synagogue, et qu'il y a eu d'énormes manifestations, et pour la première fois, on a entendu dans les manifestations des slogans du genre « Les Juifs sont dans la rue ». C'est ce que j'appelle des logiques d'autoracialisation, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais on se définit dans des catégories qui jusqu'ici étaient plutôt celles de celui qui vous regardait. Il y a la fameuse phrase de Sartre hein, qui dit que le juif, c'est celui que l'antisémite considère comme juif. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Et puis je termine avec un troisième point, qui est très vrai, en tout cas dans mon pays, ici, je ne voudrais pas généraliser trop rapidement, c'est que ce racisme qui était physique, biologique, qui a semblé devenir culturel, aujourd'hui, dans des pays comme le nôtre, il devient avant tout la hantise d'une religion. Or, la religion, ça n'est ni la race, ni la culture. Mais enfin, on entend beaucoup parler d'islamophobie, et on sait que les grands problèmes d'aujourd'hui, dans bien des pays, à commencer par celui-ci, sont évidemment la haine des musulmans et les amalgames, islamisme égale islam, et ce genre de choses. Et qu'évidemment, c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas toujours très bien ce que recouvre la haine de l'islam. Est-ce que c'est un problème religieux ? Ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est les deux à la fois. C'est à la fois une peur, une phobie d'une certaine, vis-à-vis d'une certaine religion, mais c'est aussi, évidemment, beaucoup d'autres choses qui peuvent inclure du racisme. Parce qu'évidemment, les musulmans d'aujourd'hui en France, c'est ceux qu'on traitait d'arabes il y a 50 ans. C'est les mêmes. Donc voilà, si vous voulez, le paysage de changement dont je voulais très rapidement dire quelques mots, et si je devais conclure... Je dirais, on croit que le racisme sort par la porte parce qu'il s'est passé des choses qui semblent l'affaiblir. Oui, il sort par la porte et puis il rentre malheureusement par la fenêtre. Voilà, je vous remercie de votre patience.
Well, good evening, everybody. Since we're in the Gulbenkian building, we might as well remember the Armenian genocide and remember the racism that was... carried out during the Armenian genocide, and the fact that the entire world have seen that, and we haven't, the reaction of the world was really very upsetting. But I'm here to talk about racism in Palestine and racism in Israel. And to talk about it, let me start by stating that I see Israel and I see the Zionist state as a settler colonial state. And in settler colonialism, racism is really embedded. When I say settler colonial, number one, I say that it's a structure of racism and not an event here and event there. Number two, the settler is there to evict the native, or what we say, it's the indigenization of the settler and the eviction of the native. And number three, it's built on the logic of elimination. And this is how I see the Israeli state. And in looking at racism in the settler colonial entity, especially in the Israeli state, and in my latest book, I talk about security theology, surveillance, and the politics of fear. And when I say security theology, I mean that in the context of my research, I see two theologies. The first theology is the biblical theology. And the biblical theology talks about the biblical rights of the Jewish people. So that theology clearly tells us who's the sacred and who's the profane, who should be in and who should be evicted. And again, turning God into a real estate agent that allows people to grab the land of the Palestinians and to kick the Palestinian out is something that was really seen and that was working. One of the cases that is looked at and that I study clearly is the issue of the so-called infiltrators, those Palestinians that were displaced, that were kicked out in 1948 during the Nakba, due to both theologies, the biblical and the security, because the security, the state needed its borders, and they kicked Palestinians out, and some of the people tried to come back home. Now, coming back home was defined, according to the Israeli law, as infiltration. And those people, that so-called infiltrators, ended up without documents, without IDs, without any political entity there. So when looking at these, racism of the settler colony, the Israeli settler colony, we look at the different aspects. I talk about the biopolitical one, and the biopolitical one that really, right from the onset of the state, talks about the importance of the demographic issue, the biopolitics. So Palestinians were, right from the beginning, there, but were evicted. Those that were evicted and ended up in refugees camp, whether in Jordan, in Lebanon, and in Gaza. And those that stayed in their homes and that were granted by the state of Israel citizenship status, such as my family in Haifa, were always under surveillance, because if they did not behave, they would have been kicked out of the country. And the plan was to have a demographic control. And again, if we were today talking about the history of racism in other places, which means the plan was to have less Palestinians and more Jews in Israel, because Palestinians are considered a demographic threat to the state of Israel. So people were granted special IDs. The IDs have also special numbers. At first, the state had specific ways to identify between the Arab and the Jew in the state of Israel. So you could say it right away. And later on, the state did not try out, especially after the occupation in 1967, the second occupation, where they gave different IDs with different colors. So some people had color, you know, the blue IDs, the green IDs, the orange IDs, and this is how Israel knew how to select, organize, reorder, and differentiate. So there was a clear biopolitical regime of control that have controlled the state. And it is, you know, going back to other colonial regimes, it's ruled by numbers. It's ruled by the color of the ID. It's ruled by the number of the ID. It's ruled by the way if people are given IDs at all. So there is this Israeli citizenship law that, for example, a case study that I look, and I live in occupied East Jerusalem, whereby some people have residency status, not citizenship, which means not the same ID as people that are inside Israel. And although Jerusalem is considered, according to the Israeli law, as the capital of Israel, but Palestinians are different kind of people. So there is a hierarchy of people and different way of looking at them. And they have residency status. And this residency status can be revoked the moment the state decide that the Palestinian is considered a security threat, the Palestinian is considered a demographic threat, or for other reasons. So lately, Netanyahu decided that 90,000 Palestinians in occupied East Jerusalem might end up being losing their residency status, which means they won't have the right of movement and the right of staying in their own homeland. Similar situation as we've seen in 1948. So number one is biopolitics, and biopolitics is a major issue embedded in the Israeli racism. And we see it also, I must say, in birth certificate, as my book is showing clearly. For example, granting birth certificates for children that were born in East Jerusalem is not always as easy. 78% of the undocumented children inside Israel are from East Jerusalem. We're talking about over 120,000 children with no documentations, with no birth certificates. So you could think about their conditions, health conditions, welfare conditions, educations, and so on. Think about a child that can't move because they did not have any kind of documentation in their own homeland. The second issue that I look at when I talk about security theology, or the theology, the racialized theology, is the geopolitical aspect. And geopolitics is, of course, hard at work. You know, colonialism and settler colonialism is about territory, and it's about land grabbing. So in 1948, the land was grabbed, and Palestinians used to own 96% out of the total area land in historic Palestine. Today, Palestinians are living on 3.8%. And they own 3.8%, and they're living on 2.3%, if I'm not mistaken, the precise number. Geopolitically, if I'll take you to East Jerusalem, that's another issue, because land confiscation is, of course, at hand. Occupied East Jerusalem was occupied in 1967. Palestinians in East Jerusalem are living on 12% out of the total area, which is 62 to 67 kilometers of East Jerusalem. 30% are defined as green areas, and the rest is confiscated for Jewish Israeli settlers and the other reasons. So remember that Palestinians are being ghettoized to a specific area in their own city. In addition to this, one of the main strategies that are used is the issue of housing demolitions. Palestinian houses are being demolished. The Israeli claim is that Palestinians are building without permits. So it's illegal building, and this is why Israel is demolishing houses. Our claim is that they're unauthorized and not illegal, because even if Palestinians would go to the Israeli court and would ask for permits, according to the Israeli Civil Rights Association, ACRI, 94% of the requests are not granted, are denied permits. So it's not about not going to ask for a permit, but rather the court is not giving a permit. Another mode of geopolitics, we can see it in the unrecognized villages in southern Israel, in the Naqab area, whereby there are villages that were there before 1948, yes? But those villages do not exist on the map. So as a lawyer, if I go to court and I would ask, for example, to open a road or to bring water or to bring electricity to different villages, I need to show the judge the village on the map, but the village does not exist on the map. So there is no way I could even ask to open a road or to open or other. So the unrecognized villages are there since 1948. They're still until now. Al-Araqib, one of the villages, was demolished over 100 times by the state. And I'm talking about the latest thing. Of course, the Judaization of the space and law and the Israeli law is supporting it. And again, as I always say in my writing, colonialism was done legally, and settler colonialism is using the law to regulate more and to biopolitically control and geopolitically control. The last point that I want to stress is the necropolitical point. And necropolitics is the economy of life and death, as Achille Mbembe, if he was with us, he would have. So it is an economy of life and death. And the economy of life and death is hard at work in the settler colony. My study on death in Jerusalem interviewed, so-called interviewed, dead people. I interviewed the dead from the moment they die till the moment they're buried. People need to be buried in Jerusalem when they die, no? But I could tell you the case of one of the my interviewees, that he was born in Jerusalem. He had a permit and not an ID, not a residency status, because he came and studied in the U.S., and when he returned, Israel revoked his residency. So he lived in an area whereby every time he needed to renew his permit for another year. One time he crossed the checkpoint and he had a heart attack. So his family needed to bring him back to the family barrier in the old city of Jerusalem in Ma'bart al-Rahmi in order to bury him. And when they brought the body, the soldiers told them that his permit expired. So he had the right to cross as a living body, but he did not have the right to cross as a dead body. So I look at barriers. I talk to people that are dead. I talk to their families. And I look at the necropolitical regime that is inscribed and marking, and that is marking the dead body, let alone when it's the Israeli necropolitical regime of control in Gaza, where the killing of children and people is hard at work, when the shoot-to-kill policy in occupied East Jerusalem the last year was very, very aggressive, when there is a law that is called the Nakba law, and the Nakba law is even criminalizing the mere commemoration of the Nakba. And here, you know, I would conclude by saying, looking at the constant racism that never ceases to amaze us in different spaces. If you look at Gaza, if you look at the attacks where people's bodies. I mean, like, really, especially in relation to the conditions of people in Gaza, the flesh is the site of analysis because it's over the flesh. It's controlling food that is going to Gaza. It's controlling the mobility of people. It's controlling their education. It's controlling their breathing space. It's controlling the sea. And this is why it's necropolitical. So there are different modes of racism in different ways. So inside Israel against the Palestinians that are citizens of the state or the homeland minority, there are different modes of racism in occupied East Jerusalem because of the need to more evict and bring more settlers. There is the geopolitical, biopolitical, and necropolitical is hard at work, and the war is room by room, especially in the old city where I live and where the settlers are hard at work. And you see that the system is not only the state, but the state power through different and other organizations and bodies that are really controlling and are helping this structure, this machinery of oppression to further control and to further create a space of death. You know, a space whereby you can't live, but you also cannot die. A space where, as Jaspir Poir would say, Israel is maintaining its right to maim, its right to kill, but in different ways. I'll stop here.
Merci. Je vais essayer de parler en français. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français, mais j'ai déjà essayé... cet après-midi, alors ça m'a réchauffé un peu. Je vais essayer de continuer à parler en français. Je vais parler très généralement de la configuration du racisme qui nous permet à faire face à ce que l'on appelle aujourd'hui le post-racialisme. Et pour essayer de penser de quelle stratégie raciste le post-racialisme, quelle stratégie raciste le post-racialisme est en train de propager entre nous. Premièrement, quelques considérations générales. Dans des sociétés de conflit, il y a toujours une frontière entre nous et l'ennemi. On peut parler de ça comme la frontière de guerre. Il y a un conflit ou une guerre entre nous et l'ennemi. C'est le domaine de la guerre. Mais il y a toujours aussi une autre frontière qui est très essentielle. Et c'est la frontière entre... le domaine où la guerre est en train de se passer est le domaine de paix. Chaque société essaye de garder le domaine de la guerre un peu loin de la société de la paix. Par exemple, on est en train de parler d'Israël avant. Les Israéliens se battent avec les Palestiniens. Et c'est le domaine de la guerre. Mais ils veulent aussi un domaine qui s'appelle Tel Aviv, où personne n'est en train d'entendre ou de savoir qu'il y a une guerre. Et d'une certaine façon, la base de la civilisation même, d'une façon, on pourrait parler de la processus de civilisation à la Norbatelaya, et c'est-à-dire, on est le plus civilisé, le plus on arrive à séparer le domaine de la guerre du domaine de la paix. Cela veut dire que chaque société a un domaine de guerre, que ce soit dans la colonie, que ce soit chez nous, mais ce qui nous rend très civilisés, c'est la capacité de ne pas voir qu'on a un domaine de guerre. Qu'on a un domaine de guerre qui est essentiel pour notre domaine de paix. C'est quelque chose de base, c'est-à-dire on est en train de parler du fait qu'on tue un animal pour manger un steak, et on aime manger le steak sans savoir qu'on a tué l'animal. Aussi simple que ça. Donc, j'aimerais que vous pensiez le racisme comme technologie de la maintenance de ses frontières. Le racisme comme technologie de guerre, c'est-à-dire de définir ce qu'on est en train de vouloir tuer, exploiter, etc. Mais aussi une technologie pour garder une frontière entre le domaine de notre pays et le domaine de guerre. C'est une technologie pour rendre les racialisés loin de nous. Ça peut être loin de nous d'une façon coloniale, classique, européenne, mais ça peut être aussi loin de nous à l'apartheid mode de réalité. Une réalité de guerre, une réalité de paix, etc. Donc, et là, c'est essentiel. Le racisme est un instrument de gouvernementalité dans nos sociétés paisibles. Et bien que le racisme a toujours été cet instrument de guerre, on pense toujours que nos sociétés sont si bonnes que si on voit le racisme passer près de nous, on pense que le racisme est la crise. Mais le racisme n'est pas la crise. Parce que le racisme est essentiel pour le fonctionnement de la paix dans notre société. La crise, c'est quand le racisme n'arrive plus à fonctionner de la façon dont on voudrait qu'il fonctionne. C'est-à-dire quand il n'arrive plus à maintenir les frontières. Quand les pays qu'on appelle les nations, par exemple du Moyen-Orient, les frontières entre eux, ces frontières sont des techniques racistes, coloniales, de garder. C'est un peu comme les fermes, vous savez, comme les wires dans une ferme. On dit les vaches sont ici, les moutons sont là, les Syriens sont ici, les Libanais sont là. Et l'idée d'une nation, c'est que ce n'est pas seulement qu'on est dans la nation, mais il faut penser que notre viabilité doit être pensée dans ces limites nationales. Quand les gens commencent à penser au-delà de ces limites, ils sont en train de briser les technologies racistes qui veulent les garder là où ils sont. Donc, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que notre crise aujourd'hui est une crise du fait que le racisme dont on a besoin ne fonctionne plus aussi bien qu'on aimerait vraiment qu'il fonctionne. C'est pourquoi c'est un racisme taché d'une certaine anxiété. Le racisme devient un peu agité, vous savez. On n'arrive plus à faire ce qu'on veut faire avec l'autre. Il m'a l'air d'être un peu plus libre qu'il ne le faut. Nous avons des réfugiés aujourd'hui et on pense que ces réfugiés sont en train... Leur problème essentiel, c'est qu'ils sont en train d'essayer de briser les frontières nationales. Ils ne respectent pas les frontières nationales. Mais ce qui est très intéressant j'aimerais bien que vous pensiez à ça avec moi. C'est que si vous lisez la littérature sur la globalisation, etc., et vous êtes tous comme moi, il me paraît, assez middle class, et vous voyagez pas mal de places. Je suis en train de généraliser, bien sûr, mais en tout cas, je crois que la plupart de vous ont une expérience du fait qu'il n'y a plus de frontières, qu'on peut voyager n'importe où, que c'est très facile de circuler dans le monde, que, etc. C'est vrai pour moi, j'ai mon passeport australien, je vais n'importe où, ça va, etc. Je vis dans un monde où la frontière ne veut rien dire. Il y a des gens qui, pour traverser cette même frontière, c'est énorme. La frontière, ce n'est pas quelque chose d'objectif, parce que cette même frontière, je la traverse, comme quoi, ça ne veut rien dire. Quelqu'un d'autre la traverse et sécurité, etc., interview, visa, revenez demain, revenez après-demain, non, peut-être, oui, apportez quelque chose. Et soudain, la frontière devient quelque chose de super énorme. Cette même frontière qui ne voulait rien dire pour moi. Donc, je vis dans cette partie du monde, il n'y a pas de frontières. Et ces personnes vivent dans cette partie du monde où il y a des frontières super énormes. Il y a une frontière entre la façon dans laquelle je vis les frontières et la façon dans laquelle ces gens vivent les frontières. Cette frontière est la frontière renforcée par le racisme. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand le gouvernement australien envoie des soldats pour arrêter un bateau de réfugiés, ils leur disent « Vous n'avez pas le droit de traverser cette frontière, la frontière nationale ». Je crois que c'est vrai. Ils sont en train de leur dire « Vous ne pouvez pas traverser la frontière nationale ». Mais beaucoup plus important, ils leur disent « Vous n'avez pas le droit de passer de la frontière du monde où la frontière veut dire quelque chose au monde où la frontière ne veut rien dire ». Et c'est là, je crois, on est dans une crise où ces réfugiés ne veulent plus écouter le racisme ancien. Alors, on a besoin de le redéployer d'une façon encore plus intense. Et la façon la plus efficace à redéployer le racisme d'une façon très, très efficace et intense, c'est d'annoncer l'arrivée du post-racisme. Parce que ça rouvre, réouvre le champ social pour un certain anarchisme, si vous voulez, des racismes. Et c'est ça qu'on est en train de parler. Le fait que on parle du post-racialisme, il n'y a plus de racisme, mais en même temps, c'est une anarchie de racisme. Plus intense que jamais, plus anxieux que jamais. L'anxiété, c'est palpable. Anxiety full. En Amérique, aux États-Unis, le racisme, comme le racisme, comme chaque mode de domination, a toujours peur de sa faillite. Et s'il y a une certaine façon, quelque chose qui indique la possibilité de la faillite, ce racisme devient plus intense. Et je crois que une certaine littérature qu'on appelle en anglais Fantasies of Reversal. Fantasies of Reversal, c'est une littérature coloniale où les pouvoirs coloniaux, les gens, les pays européens, etc., les auteurs, imaginent un retournement. Ils s'imaginent dans ces romans que les Indiens les gouvernent, que les... etc. Et je crois que le dernier ouvrage que j'ai vu qui est typiquement Fantasy of Reversal, c'est Welbeck, sur l'islam et je ne sais quoi. En tout cas, ces fantaisies sont des fantaisies de la peur de la faiblesse. Mais ça indique aussi le moment où l'on se trouve aujourd'hui. Okay. Merci.
To Françoise Vergès, David Theo Goldberg, Achille Mbembe, all of the members of the panel, and those who are in attendance at this very important colloquium on the persistence and intensification of racisms and on possible intellectual and activist strategies to counter them. I sincerely regret that I cannot be present with you in person this evening, but I would like to offer a few ideas by way of addressing the question that was posed to me. What anti-racist strategies would you advise, work to develop, imagine in these times of populism? With the electoral news from the United States and Europe over the last few weeks, many people are deeply apprehensive about the future. But even as we express our dismay over the election of Donald Trump and the prospects for the upcoming election in France, for example, we cannot allow these defeats to overwhelm the historical significance of continuing our struggles against racism. It is not only a question now of recognizing the dangers of right-wing populism, which of course we need to do, but also it's a question of acknowledging where we are with respect to a collective consciousness of the persistence of racism and the need to act now in the interests of the future. It is often in the very nature of activism to desire to see the immediate consequences of one's work. We want to know that our work makes a perceptible difference in the moment. But knowing what we know about the ways historical change takes place, it might be helpful to counter the neoliberal proclivity to reduce all meaningful projects to the level of individuals and their lifespans. I do not believe that the recent elections in the US reflect the emergence of a new racist majority or old racist majority. The statistics themselves counter such analysis. No more than 25% of eligible voters voted for Donald Trump. The fact that he won, it seems to me, is not so much an indication of a broader racist consciousness, although I do not want to underestimate the current dangers of racism, as it is a failure of electoral politics to provide arenas for the expression of the range of anti-racist movements that define the current moment. Abolition feminism emerged from the decades-old campaign to abolish prisons, and particularly to abolish the prison industrial complex in this era of global capitalism. While it specifically counters what has come to be called carceral feminisms, that is to say, those feminisms that readily embrace state punishment as a strategy for addressing gender violence, abolition feminism reflects some of the most important developments in the understanding of and resistance to racist-inspired violence. Thus, the new anti-racist youth movements reflect feminist engagements with structural violence, which represents, I think, how we should be approaching racism today. Further, anti-racist strategies will not be successful if they do not incorporate an awareness of how Islamophobia, on the one hand, and assaults on immigrants and refugees, on the other, have shifted the terrain of racism. As we work to advance social justice, whether in climate struggles, labor movements, prison abolitionist causes, campaigns against police violence, we should understand that in this age of rampant privatization and neoliberal assault on the public good, they all require a rising resistance to global capitalism. I wish you much success in your deliberations this evening, and again, express my regrets that I cannot be with you in person. Thank you.
So, good evening. I'll try to maintain my voice without cracking throughout this. Just when you think that Françoise has produced the last fantastic event, it requires us to acknowledge that she's pulled another rabbit out of the hat, right? So once again, thank you. She has these amazing venues that just materialize without thinking about it, and Sarah as well. I want to thank you for all the work behind that. So a good panel discussion would be nothing without controversy, without some kind of dissent. And I want to begin just by indicating a couple of differences with Michel Viavorca in what I understood of his talk. Racisms have always, historically, I mean, racism is a modern phenomenon in the sense that it emerges in the late 15th century. And from that moment on, it has always been about the relation of of behavior to bodies and of culture to color, always, right? It's not that somehow neo-racism in the 1990s kind of emerged without a kind of background history. That's not to say that you don't have different points of emphasis at different historical moments in time. One does. Sometimes culture gets more emphasized than the physical or physiognomy. But there's always a relation between them. And in that sense, one needs to think complexly about the relation between the physical and the cultural. So that, you know, the so-called neo-racism of the 1990s or Martin Barker's New Racism, even Barker's New Racism in 1981, that little book that kind of, you know, indicated that there was a new racism, was about the relation between the physical and the behavioral and culture and the expressive. So those things always go together. The second point I want to emphasize is that racism is always expressed from a position of power, right? So I don't think, you know, that's not to say that this or that person can't be mean to the, you know, some other person, or that they can't be degrading to another person, or they can't pick out another person on the basis of certain kinds of behavioral, cultural characteristics and so on. But racism requires being in a position of power in order to sustain the claim that is being made, right? And one sees this if you think about the modern state. Modern states, from roughly that same period onwards, from the 16th century onwards, modern states become modern by virtue of being inscribed into a set of more or less global racial conditions. That's not to say that the racial conditions are the same at every historical moment, right? Of course, colonialism is different than neocolonialism or post-colonialism and so on, and the forms of racial derogation that attach to them. But modern states get drawn into the modern state system by taking on race as a condition of what Foucault called governmentality, as a condition of ordering people. You know, so what does race do in relation to the state? It categorizes people. Think of census taking from the late 18th century onwards, right? The earliest census taking was racially driven. If you think the first census in the United States was 1790, not the first global census taking, obviously British colonialism in India and so on and so forth. But the five original categories were in part racially defined in that initial undertaking, and they've been defined in racial terms ever since. Again, not exactly the same racial terms. They kind of, points of emphasis change a little bit every 10 years, and about every 40 years, the actual category, you get new categories, but they're racial categories, right? They, at least in the case of the U.S. So you can see the way in which the racial becomes a form of state organization, of how it conceives of itself and how it conceives of the population, in a way Gassan was mentioning, to differentiate between those who belong and those who don't or don't fully. Now, Gassan has mentioned elsewhere, not here tonight, that that there are different kinds of racisms, right? On the one hand, you have the sort of older, in a way the colonial form is this. The distinction is not absolute again, but it's worthwhile drawing the distinction. The colonial and more recently has been largely driven by exploitation. That is, people who are taken not fully to belong or to be inferior or to be culturally different or whatever could be identified in order to be able to put them to work under conditions that the state would not be putting its full citizens to work, right? Is what both Nadira and Gassan have referenced as a kind of eliminative racism, right? And eliminative racism takes one of two forms, right? The most extreme pernicious form, Nazi Germany, is exterminationist. But not all eliminative racism is exterminationist. I've been accused by Zionists in the US when I've drawn that distinction to say that I'm accusing, say, Israel of being engaged in getting, you know, that Israel is exterminating people. Right, completely in a kind of ethnocide or genocide. Right, the distinction between eliminative exterminationist and eliminative removal, right, is an important one to draw onto. Nadira spoke at some length this evening about the forms that the Israeli state assumes in order to make those who are taken not to belong absolutely physically not to belong, right? Go and live elsewhere. You know, you really belong in Jordan. You don't belong here, right? Maybe you can go to America and America can take care of you, right? It's kind of, or something like that, right? And then there's another form of racism that sort of slips in and out of each of those that exacerbates and mediates between them. And that is what one might call humiliating racism or dismissive racism, right? The way in which, you know, that often is on an individualizing level, but not always and not only, right? And that humiliates, but you can see that in order to humiliate somebody, you need to be in a position of power in relation to them. I mean, if you're not in a position of power, you're like, who are you, Jack? You know, take a walk, or, you know, throw wine on you or something like that, right? Like a, they can dismiss you in return. But if you're in a position of power, right, then you really have the capacity to demean and diminish in a variety of ways. And you see this in relation to the liberal condition of tolerance. Tolerance is always expressed from a position of power. When I say I tolerate you, I have the power to tolerate you. The tolerated never say, I want to be tolerated, right? The tolerated say, respect me, all right? Or something like that, right? And so you can see the way in which the condition, you know, that I don't think it's enough to say that anybody can be racist against anybody else, right? I think that's too simplistic. Precisely because it undercuts and undermines that position of power in which racism always stands. Now, one last thing. In contemporary terms, if I back up and sort of put a couple of things together over here. The welfare state, such as we knew it from roughly the 1930s onwards, right, is what I would call the caretaking state. The caretaking state is a state that looks after or takes itself to be looking after those citizens taken to belong to the state. Right? From the 1930s to about 1980, roughly speaking, right, those citizens were largely taken to be white. Right? So the white welfare system. It's exactly that the state, the state in the global north, or welfare states such as they're identified, exactly as they become more heterogeneous, that the welfare state, the caretaking state, the state that provides social security, the state that provides retirement, the state that provides health, the state that that provides retirement benefits, and so on and so forth, free education, right? That gets eroded exactly at the point at which the state becomes more racially diverse, right? And it gives way to what we come to characterize as a neoliberalizing state. Now, the neoliberalizing state denies that it's invoking race. It says, we're racially neutral, right? We're racially neutral in state terms, that we refuse to discriminate between people in terms of hiring them and so on, and, you know, laws on the books, right? But what it does is it licenses to the private sphere, to the sphere of private free expression, and not only licenses, but protects in that licensing the capacity to say anything one wants to say. And one's seen a proliferation of that, certainly of late, right? If you think of the Danish cartoons, if you think of some of the things that have happened here in France and Paris and so forth, that those forms of dismissal and humiliation and demeaning speech become the driving condition of racist expression, and the state can wipe its hands clean and say, free expression, until you begin to express yourself in ways the state doesn't like, right? At that point, the state comes down on one as a ton of bricks. And one sees this, I'll give one example in finishing this, in the context of the U.S. The U.S. Senate just voted on a law, somebody mentioned it, I think, sorry, or somebody mentioned it in the last 2 days, just passed a law outlawing any critique of Zionism as racism. So it's fine, right? I mean, had Nadira given that speech, that talk she gave here, in the United States, right, maybe the law would have come down on her head, who knows, right? But whether or not it actually comes down on her head is not quite relevant, right? It's the fact that one begins to question oneself in making a critique of the state or a critique of a particular state as racist, right? Which indicates that that law has already done its work, right? And so, in finishing, I'll just say that we have to resist exactly those modes, those shifts in racist expression, those underlying infrastructures and conditions that produce the kinds of possibilities of this erosion of the freedom of us all. And we need to think really creatively, not to do the expected, but to do the unexpected in the face of racism. Thank you.
Michel, qui doit partir bientôt, je lui ai proposé de, si vous voulez répondre.
Oh, I will be very short. There were two key points in your criticism to what I said. On the first point, I fully agree with you. I spoke too quickly. I don't think that the physical and the cultural racism are two different stages in the history of racism. And when these ideas of cultural racism appeared in this country, my position was always to say racism has always been made of both. So sometimes it's more cultural, sometimes it's more cultural, but you don't understand racism without this image of a kind of tension between those who are more physical, if I can say that like that, oriented, and they say, please come here and work in my company and do the dirty job and so on, and those that say, I don't want to see you, you are culturally different. I mean, so my position on this point, we agree, we don't disagree. On the second point, there is still some disagreement. The second point is, do we need to be in a position of power to be racist? I am not so sure you are right, unfortunately, because of course we want to be on the side of dominated people, we want to be on the side of excluded people, we want to be on the side of poor people and so on. But there are cases where dominated people, excluded people, poor people also may share and promote racist ideas. So this is a disagreement, but I'm sure that if we have 1 or 2 hours to discuss this, we could find some better way of discussing. So this were my 2 points.
On va prendre des questions. Moi, je voulais juste... parce qu'en fait, depuis 2 jours, je n'ai rien dit. Enfin, j'ai organisé... fait passer la parole. Je vais pas du tout intervenir pendant 10 minutes. Moi, je voudrais juste dire une des choses qui me semble importante, moi, dans la reconfiguration de la profession de racisme, c'est la question des femmes et la question de la manière dont les droits des femmes aujourd'hui sont instrumentalisés comme un des points les plus importants du déploiement du racisme. Et comment on pourrait dire que la France, qui se dit le pays des droits de l'homme, pourrait se dire le pays des droits des femmes aujourd'hui, dans cette manière de se présenter au monde, défendant donc les droits des femmes. Et donc cette manière dont, effectivement, sur la question de l'égalité, sur la question de la défense des droits, sur la question d'effectivement des femmes qui seraient libres et qui, par rapport aux femmes qui ne seraient pas libres à cause de, justement, de sociétés et qu'on peut justement donc montrer comme racistes parce qu'elles oppriment les femmes, donc cette relation entre l'oppression des femmes et le fait d'être donc arriérée. Et on a vu plusieurs choses en Europe, l'histoire de Cologne, mais d'autres situations. Donc ça, c'était un point que j'aurais voulu aborder, qu'on abordera, et qui me semble pour moi absolument important de voir comment les mouvements des femmes sont nationalisés, deviennent nationalistes. Ce sont, je veux dire, on parle de féminisme français, je veux dire, on ne sait même pas ce que ça veut dire, je veux dire, cette nationalisation des droits des femmes. Donc ça, c'était juste un point que je voulais évoquer, je ne veux pas en discuter, mais c'est une chose qui, pour moi, est très importante, ce déploiement qu'il y a eu, qui se déploie aussi à travers des organisations internationales, à travers les Nations Unies ou à travers même les États. Et donc d'aborder ça, je veux dire, pour la France, bon, il y a eu l'histoire du Burkini l'été dernier. Enfin, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à voir autour de ça. autour de toutes ces questions, des lois, des discours, des films, des romans, des romans qui sont primés en ce moment, des auteurs qui sont mis en avant. Enfin, il y a toute une série de choses qui se passent et qui seront intéressantes à étudier et qui sont peut-être moins violentes au sens, je veux dire, effectivement, ce ne sont pas des corps blessés ou tués dans la rue, mais ce sont des corps invisibilisés ou des corps stigmatisés. Donc c'était juste une remarque que je voulais faire. Et sinon, maintenant, nous avons 20 minutes, c'est cela ? Je sais pas quelle heure. 20 minutes de questions. Enfin, je veux dire, la parole est à vous.
Thank you very much for all your presentations. I wanted to pose a question to Hassan. In relation to the border between peace, the border of peace and the domain of peace and the domain of war, there is a border that goes in between them. So I wonder if you have any thoughts about what's happening in this border. Because, like, in Israel, it's true, as you said, that it's very, very clear. I mean, I live in Jaffa, which is almost Tel Aviv. So it's clear that wars end when Hamas is shooting Tel Aviv. I mean, it's really important. That's the moment when Israel is like, okay, you had it. And so I really wanted to know what's happening in this border, and in addition, if this differentiation between domains has to do only with exterior enemies or threats, or exterior threats or enemies, or also it can be like internal moments of war.
Okay. First of all, obviously, in a talk like this, I'm schematic. So just to give you the grounds for thinking, and it's not absolute. There's a struggle. You can say that in every society there is a struggle to create a separation between the space of war and the space of peace. Now, to what extent this separation is successful is dependent on many issues that whatever specific case you are studying will allow you to see to what extent. But what's important is to see the governmental drive to create this situation. And in Israel, it's even more complicated because on one hand, you do want to create that space of peace and space of war, but on the other, you want to maintain and inject in the population a warrior caste modality. So, yeah, I mean, so, as we know, reality is always complex, as they say. It always irritates me, this, when I give a talk and someone says to me, but things are a bit more complex than this. So I say, yes, I know, but I'm trying to simplify them, you know, so we can think. I don't need to know that reality is more complex. I know that. So that's this issue then of... in relation to I come from a settler colonial society in Australia, and all settler colonial societies are built on a space of war with the indigenous people. And to what extent the space, on one hand, you have to continue the war because settler colonialism is not a historical event that fades, but is a continuous practice on the indigenous people. And so it's a continuous war. And this continuous war is happening, but at the same time, so there's then the frontier between the warriors, the settlers, and the... But also you are governmentally, as in you, as in the government, are trying to create distancing between this war. So Lilith gave a paper this afternoon on Standing Rock. I mean, that's the classic case where sort of like what's happening today in the United States in relation to war on indigenous people in relation to resources, etc. And that's like one of an interesting case which is happening in the US, happening in Australia, exactly the same thing. That is, you use post-racialism and you say we're beyond race, etc. And that is your initial war missile to go and do exactly the colonial traditional thing of free appropriating and stealing land and what have you.
So, first of all, thank you for this whole day. It was very intense and great. I would like to return back to the term of autoracialization, that I think it's a problem because it's supposed that actually the racialized people made this racialization themselves, while it's actually to claim that white people, when black people say, like, I don't want that you call me black, but noir, to face the racial structure and not to, like, claim a racialization of themselves, which is different, I think. And as well, I would like to greatly thanks Nadira, because I remember that, for example, Angela Davis, but she was not the only one, to tell that actually the Palestinian struggle was the struggle of the world, kind of. I mean, I don't tell what she said exactly, but that everybody has to embrace this problem, this struggle, because it's like a matter of humanity, and I think that like everybody that is fighting against racism has to think about the Palestinian people that are still dying on the hand of Israeli people, and to think as well that the Israeli government is not people, I would say government, sorry, and to think that the Israeli government is not only like isolated government, but it is to the that the European and West government also are implies into this this colonial situation, and that it's important to remind as well. So thank you.
Thank you. One of you, I don't know who, but told that tolerance is always to be thought as a position of power. And you said, if I tolerate you, it means that I have the power on you. I don't know who told that, but it brings me a question. When you say that, do you think that the it will never be possible to get rid of this question of power, and that horizontal relationships are possible or not? And I mean in a larger way, more in questions of gender, in questions of racism, it's a larger question, I mean. And I wanted to ask the person who said that if it's possible to go on.
I guess I'm the culprit, right? guilty as charged. So these are large questions that you're asking. One, I think, always has to bear in mind a kind of, whether or not power, and power, of course, is a generic term for a whole range of conditions, right? It's a relational term between those who have and those who don't. That differ in gender terms than it does in racially ordered and organized terms, than it does in class terms and so on. Even as those things don't just intersect, but they, Stuart Hall would say, they're modalities through which the other is always articulated. Right? And so they co-articulate each other in these complex ways. So even as we're both thinking about analyzing but also facing up to not just constricting and constraining power, but undoing its, at the very least, most pernicious elements, I think it's crucially important to have a kind of aspirational
set of commitments, right? What is it that, in the name of what is one mounting a critique of power in this or that condition, and to what end, and to bring about what kind of outcome? And that's going to differ from one context to another, both historically and contemporarily. And but it, you know, in the absence of those aspirational expressions, one is just pushing back, right? So that in relation to, I mean, tolerance emerges. If you think of the liberal discourse, or even proto-liberal discourse of tolerance, I mean, it's John Locke's essay on tolerance, which is regarding religion, right? Catholics in relation to Protestants and so on, right? And then it gets taken over as a generalized sort of disposition in relation to those we really don't like. And when we say we tolerate you, we're really indicating to you that we don't like you. But we'll kind of maybe, or, you know, put up with you anyway, right? And that's what I mean in part by the, I mean, you can generalize that and thicken and cement it, right? But there's a, as Sari was talking earlier about the Museum of Tolerance in Jerusalem, right? Sorry. That, no? Sorry, yeah. It's kind of, I think. you know, the hubris of citing a Museum of Tolerance at the apartheid wall, right, indicates the very thing I'm pointing to, right? That in order to be able to build that building in and on that site, I mean, on a Palestinian cemetery, right, requires the Israeli state to have the power to say, screw you, we're going to do this whether you like it or not, right? And it's exactly that becomes the form of expression of power that underpins, I want to say, to smaller and larger degree, all forms of tolerance.
Oh, yeah. Et les, tous ceux d'ailleurs qui ont participé, enfin ceux qui sont encore debout, qui ont été à l'atelier, vous êtes invités à participer.
Oui, moi c'était pour engager aussi la discussion sur ce que tu disais à propos du féminisme, Françoise, et notamment sur donc, l'instrumentalisation des droits des femmes. C'est vrai que dans le racisme, et notamment tel qu'il se développe en tout cas en France, vis-à-vis des femmes voilées, là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réactivation des politiques de salut, de sauvetage, qui souvent, donc évidemment, il fallait sauver les femmes afghanes, il y avait ça en 2000, enfin, juste après les attentats de New York. Oui. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est une idée du sauvetage. Il faut sauver les femmes d'elles-mêmes aussi. Donc, parce que elles se font, le problème, c'est qu'elles se font le relais d'un discours qui serait ceux de leurs frères, leurs pères, etc., qui les opprimerait. Et donc, il faudrait les forcer à la liberté. Faudrait les forcer à l'émancipation. Et donc, on retrouve finalement, ici réactivée, la dialectique dont on parlait ce matin, qui est celle de la libération, qui, dans ces conditions mêmes d'institution, entretient un rapport intime avec la violence, avec la force, avec la destitution, avec le marquage au corps, etc. Et bon, peut-être que mon Assira est bien plus qualifiée que moi pour dire ça, mais peut-être qu'il y a eu un glissement, en tout cas en France, sur la manière dont on voit les filles et les femmes arabes. Bon, tu as travaillé, Assira, sur les beurettes, et effectivement, il y a cette... par le terme même de beurette, il y avait une certaine forme de docilité des femmes arabes qui étaient ainsi reconnues. Et là, ce qu'on voit avec les femmes voilées, c'est qu'il y a une criminalisation. Et c'est intéressant parce que ce sont des victimes qui sont criminelles. ce sont des victimes qui sont pas de bonnes victimes. C'est ça tout le problème, qui ne se laissent pas sauver. Donc voilà, c'est pour aussi introduire cette thématique-là comme étant finalement non pas quelque chose de nouveau historiquement, au contraire, je pense qu'il y a une profondeur historique dans cette manière justement dont le racisme procède par un discours universaliste de sauvetage, de libération, etc., mais qui s'applique de manière très spécifique au corps des femmes, au corps des hommes aussi, hein, puisqu'on oublie évidemment que, tout de même en France aussi, hein, les hommes sont aussi visés d'autre manière, évidemment, par les violences policières, etc., qui touchent moins les femmes pour ce qui est, par exemple, des contrôles d'identité. Et chacun, à leur manière, en tout cas, est directement visé.
Oui. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau et on peut dire qu'il y a des réactivations et des choses quand même nouvelles, d'une part parce que la présence dans l'espace public de ces femmes est plus en France, en tout cas en France française, là, en France, je ne sais pas comment, enfin, est beaucoup plus visible que jamais. Je veux dire, il n'y avait pas ça. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on aille plus loin, qu'on voit comment c'est lié à des choses qui ont été discutées dans ces deux jours, quelles sont effectivement les reconfigurations, quels sont les liens avec les nouvelles formes aussi de fabrication de personnes qui sont du rebut, du rejet, la question de la militarisation de l'espace public, de ce qui a été aussi montré dans là où c'est l'espace social qui était l'espace d'un certain État devient militarisé et la militarisation devient sociale. Je pense que tout ça devrait être étudié. On devrait peut-être penser à tout ça si on regarde la situation des femmes. Pas simplement, justement, comme peut-être la reconduction de ce qui a été vu auparavant autour de la femme voilée. Et il y a des traces de ça, évidemment, mais qu'est-ce qui aussi toutes ces autres choses qui se jouent pour qu'on n'oublie pas aussi tous ces phénomènes ? Et pourquoi, par exemple, ce que David rappelait, en Israël, on ne veut pas que les femmes palestiniennes fassent d'enfants, mais après, ailleurs, comment tout ça se joue autour du corps de ces femmes non blanches ? Et évidemment, les hommes sont visés, mais il y a quelque chose qui se fait, parce que jamais on n'a vu autant, en tout cas en France, le discours... du droit des femmes porté par justement des femmes qui vraiment laïcité et droit des femmes vont ensemble aujourd'hui. Laïcité et égalité des hommes et des femmes. Mais c'est nouveau ça, c'est nouveau dans sa formulation, parce que la formulation de sauver les femmes, tu as tout à fait raison, mais ça passait pas par la laïcité. Je veux dire, il y a quelque chose, tu vois, c'est d'étudier ces glissements. Ça ne veut pas dire que c'est complètement nouveau, mais pourquoi laïcité est devenue aujourd'hui l'équivalent de l'égalité homme-femme ? C'était juste ça que je voulais évoquer, et de toute façon, ça voudrait dire une autre conversation. On va prendre encore trois questions. Donc voilà, une.
I just had a question again about power, if possible. I was wondering if to you it was synonymous with privilege, because the way you were explaining it, that's how I understood. So I just wanted to see if you think they're interchangeable, the two terms.
Right. Thank you. They're not interchangeable in the sense that the one's reducible to the other. I mean, obviously, power enables privilege to be established and sustained, but I would say privilege is one of the expressions of power, but not the only one, right? By a long stretch of the imagination. But I just take this opportunity just to add one other thing in relation to the previous question about tolerance, and that's the aspirational condition. Achille Mbembe has talked about the necessity of holding on to the dream of what a free life looks like or amounts to. as we mount both critiques and activism in relation to pushing back against racisms and power more generically. And that's very important, that that maintaining that sense of the dream, which is not synonymous with, you know, the varieties of producing the new man, right? I mean, you get that, and it's not unimportant. It's in Fanon, it's in some of the Harlem Renaissance folks and so on and so forth. But, you know, one needs also to be careful in thinking about the dream, that the dream then doesn't become its own form of imposition, right? An absolutely rigid sense of this and only this way will produce freedom. I mean, that's not freedom after all, right? And at that point, the dream becomes the nightmare. And I think one needs to be very careful about enacting and reenacting freedoms in the name of whatever this dream is. And indeed, the dream itself, I mean, dreams change too in relation to contexts and times. And so finding a way in which to hold on to a vigorous, productive, creative set of dreams is important, even as one sort of constantly shifting them at the edges.
Okay. Well, je pense, sauf s'il y a vraiment chose urgente, on est, on travaille depuis hier matin. On est tous, il y en a beaucoup qui ont fait des traversées des océans, donc ils sont aussi un petit peu. Et je propose donc de remercier les personnes du panel. De remercier encore la Fondation Gulbenkian de nous avoir reçus.